Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et un nouveau livre de Roger Scruton, L'erreur et l'orgueil, vient de paraître en français. Vous nous rappelez peut-être d'abord qui est Roger Scruton ?
Oui, cet essayiste britannique s'est imposé au fil des ans comme l'un des phares du conservatisme intellectuel. Un conservateur à l'anglaise, dans la lignée d'Edmund Burke, c'est-à-dire pas hostile au changement ni aux réformes à condition qu'elles fassent la preuve qu'elles procurent une amélioration par rapport à l'état de choses préexistant. Le conservatisme est une tradition philosophique longtemps presque introuvable dans notre contexte intellectuel. En France, existent des progressistes, des libéraux, des réactionnaires, mais la pensée conservatrice, elle, a longtemps été sous-représentée. Chateaubriand, Balzac. C'est peut-être en train de changer sous nos yeux, et voilà pourquoi, sans doute, les ouvrages de Roger Scruton font de plus en plus l'objet d'une traduction bienvenue. Alors Scruton déteste le jargon, l'étalage d'érudition gratuite, les indignations faciles et les vaines polémiques. Mais avec sa manière réservée et sa lucidité désenchantée, il fait souvent mouche. Avec lui, les impostures intellectuelles pleines d'arrogance éclatent comme des ballons piqués à coups d'épingle. Or, le but de son dernier ouvrage traduit, L'erreur et l'orgueil, vous l'avez dit, paru aux éditions de l'Artilleur, est précisément la mise en pièces de quelques fameux penseurs progressistes. Le titre anglais était meilleur, mais difficile à rendre. « Fools, Frauds and Firebrands, Thinkers of the New Left ». Insensés, escrocs et boutefeux, penseurs de la nouvelle gauche. Ses cibles sont très variées, il s'en prend aux historiens communistes britanniques comme E.P. Thompson, l'auteur du fameux livre « La formation de la classe ouvrière anglaise » et Eric Hobsbawm, dont il conteste surtout l'ouvrage portant sur le XXe siècle qui s'appelait, souvenez-vous, « L'âge des extrêmes ». Il leur reproche de réduire systématiquement les êtres humains à des abstractions, aisément manipulables par l'idéologie, telles que des forces, des dynamiques, des classes. En outre, dit-il, la vision matérialiste n'apporte pas grand-chose. Elle risque d'entraîner à une sous-estimation de facteurs tels que les usages sociaux, les institutions politiques, les croyances religieuses et les valeurs morales établies, dont le rôle historique est pourtant déterminant. Aux États-Unis, il s'en prend à Dworkin et à Galbraith, des cibles pas très intéressantes, là où l'on aurait attendu plutôt Noam Chomsky ou Judith Butler.
Et alors qu'en est-il en France? À quel penseur français s'attaque-t-il?
Un chapitre entier est consacré à Sartre et à Foucault. Pour Scruton, le père de l'existentialisme a bricolé l'essentiel de sa philosophie à partir de la lecture que faisait de Hegel Alexandre Koyev lors de son fameux séminaire à l'école pratique des hautes études dans les années 30. Souvenez-vous, il y avait là notamment pour auditeurs Bataille, Aron, Merleau-Ponty, Lacan et Simone de Beauvoir. Eh bien, chacun d'entre eux en a tiré quelque chose de différent. Et pour Sartre, c'était l'idée de l'individu auto-créé et de sa liberté radicale. Exprimée très tôt dans la nausée, cette liberté est source d'angoisse pour une conscience qui non seulement considère que le monde environnant n'a nul autre sens que celui qu'elle peut éventuellement lui conférer, mais qui se vit elle-même comme une sorte de néant. Comment, en partant d'une telle philosophie, Sartre en arrive-t-il à l'idée d'engagement en faveur de la révolution et du socialisme? C'est un mystère. Je cite Scruton. D'après la métaphysique énoncée dans L'être et le néant, la bonne réponse à la question « à quoi dois-je m'engager ?» devrait être « qu'importe, tant que tu peux en vouloir comme loi pour toi tout seul ». Mais ce n'est pas la réponse proposée par Sartre, dont l'engagement se fait envers un idéal qui est en contradiction avec sa propre philosophie. Scruton confesse une certaine tendresse pour le style de Michel Foucault, pour son imagination, dit-il, flamboyante. Mais il ne voit pas dans son archéologie du savoir une grande innovation. Selon une manie partagée par bien des intellectuels de gauche français, comme Sartre lui-même, dit-il, Foucault entend arracher les voiles, les masques, derrière lesquels se dissimulent les rapports de domination, démasquer les tromperies des autres. Chez Sartre, c'était au nom d'une vague nostalgie pour l'authenticité personnelle. Foucault, lui, cherche les structures secrètes du pouvoir, derrière toutes les institutions et même celles qui sont à l'œuvre dans le langage. Mais l'horizon historique sur lequel il projette cette quête, qui postule une rupture entre l'âge classique des XVIIe et XVIIIe siècles et le monde bourgeois qui succéderait à la Révolution française, montre que, malgré ses dires, Foucault était demeuré prisonnier du marxisme. D'ailleurs, sa théorie de l'épistémée est une ressucée, je cite Scruton, de la théorie marxiste de l'idéologie. En outre, il ne considère le pouvoir que sous l'angle de la domination. Mais le principal reproche adressé à Foucault par Scruton, c'est celui qu'on trouve chez tous ses lecteurs conservateurs, le relativisme. Si chaque époque engendre les formations discursives qui correspondent à son système de pouvoir, les sciences comprises, alors la vérité n'existe pas et tout n'est que discours.
Merci beaucoup Brice Couturier.